VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre Boko Haram. Au Niger, l'attaque massive du groupe djihadiste nigérian vendredi dernier contre la ville de Bosso dans le sud-est du pays a déplacé quelque 50 000 personnes, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La majorité des déplacés ont fui à pied en direction de la ville de Toumour, à 30 km à l'ouest de Bosso, a déclaré Adrian Edwards, un porte-parole du HCR. D'autres se dirigent vers Difa, à 140 km à l'ouest de Bosso, ou bien à Kabeleroi. Au nord de Bosso, se trouve un camp pouvant abriter 10 000 personnes qui est déjà presque au complet, a précisé le porte-parole. Un deuil national est en cours au Niger. Plus de détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Un deuil national de 3 jours démarre ce mardi. Le gouvernement indique que la ville de Bosso est totalement sous contrôle, contrairement aux informations qui ont fait état du retour des éléments de la secte Boko Haram juste après le passage de la délégation du ministre dans la ville de Bosso. Information pourtant confirmée par plusieurs sources locales, notamment le maire de la localité de Bosso. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Nigeria voisin est confronté à un nouveau groupe rebelle en plus de Boko Haram. C'est la force conjointe de libération du delta du Niger. Eric Manirakiza.
C'est dans un communiqué que le conseil révolutionnaire de ce groupe rebelle, issu de la région pétrolière du delta du Niger, a déclaré la guerre contre le Nigeria. La force conjointe de libération du delta du Niger promet de viser toutes infrastructures construites avec l'argent du pétrole, dont la présidence et plusieurs bâtiments officiels d'Abuja. Les sièges des grands groupes pétroliers étrangers, des installations de l'armée et la banque centrale sont également dans le viseur des rebelles. Récemment, plusieurs attaques revendiquées par les vengeurs du Delta du Niger et notre mouvement rebelle ont pris pour cible des installations pétrolières. Ce groupe a demandé l'union des rebelles tout en les invitant à s'abstenir de toute action qui mettrait des vies en danger. Le Nigeria connaît une chute de production quotidienne du pétrole de 800 000 barils à cause de ces attaques. Le président Muhammadu Buhari a ordonné un dispositif de sécurité renforcé dans le delta pour tenter de contrer ces attaques. Mais cette approche est jugée inefficace par son prédécesseur, Goodluck Jonathan.
Au Burkina Faso, la justice a annoncé qu'elle renonçait à son mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre 2015 à Ouagadougou. Mais elle a demandé à la Côte d'Ivoire de le poursuivre dans le cadre d'une autre procédure dite de dénonciation. On écoute le commandant Alioune Zaré, commissaire du gouvernement au Burkina Faso.
En ce qui concerne le sieur Guillaume Soro, au regard du caractère d'extranéité du sujet et des obstacles juridiques, comme le principe selon lequel aucun État n'extrade son national, que dans toutes les conventions multilatérales et bilatérales qui lient le Burkina Faso à d'autres pays, toutes ces conventions stipulent que l'extradition n'est pas possible en matière d'infractions politiques ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes. Le parquet, donc, a opté pour la procédure de dénonciation dans le cas d'espèce, ce qui du reste a été fait et transmis donc par les canaux appropriés depuis au moins 2 ou 3 semaines.
Le commandant Alioune Zaré, commissaire du gouvernement au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, les 11 élèves âgés entre 13 et 19 ans du lycée de Muramvya, accusés d'outrage au chef de l'État et emprisonnés, seront privés de liberté le temps que la justice se prononce sur leur cas. Ces élèves avaient gribouillé des photos du président Pierre Nkurunziza dans leur manuel scolaire. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Pour la maman d'un enfant qui est en 9e année, il faut que ses enfants soient libérés.
Nous demandons que nos enfants soient libérés et aillent passer les examens. bakagenda bagakora ikibazo hamwe n'abandi.
Et pour le gouverneur de la province de Muramvya, Emmanuel Niondiko, les parents des enfants de cette ancienne province monarchique n'encadrent pas suffisamment leurs enfants.
Après Dieu, c'est le roi. Aujourd'hui, le roi du Burundi, c'est le président. C'est-à-dire le respect du roi, le respect du président doit être une rigueur dans le monde entier, plus particulièrement dans notre pays, le Burundi. Alors, après avoir réalisé ça, nous avons constaté que les parents n'ont pas pu peut-être remplir leur mission noble d'enseigner les enfants les valeurs qui doivent qu'elles aient les jeunes aujourd'hui, parce que ce sont eux qui sont responsables de ce pays.
Pour un des avocats de la défense qui a requis l'anonymat, le gribouillage devient un délit punissable par le code burundais quand il est écrit et ou verbal. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Ouganda, le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en février pour un cinquième mandat à l'issue d'élections controversées, a nommé sa propre épouse au poste de ministre de l'Éducation et des Sports dans le cadre d'un remaniement de son gouvernement. L'ancienne députée Janet Museveni, 67 ans, n'est pas une inconnue sur la scène politique ougandaise. Elle occupait depuis 2011 le poste de ministre en charge du Karamoja, une région peu développée du nord-est du pays. Le 25 mai, Muzi Kainerugaba, fils du président Museveni, avait été promu au rang de général de division en charge du commandement des forces spéciales. Le fils du président avait alors démenti vouloir succéder à son père à la tête du pays, alors que l'opposition avait affirmé que Yoweri Museveni le préparait à prendre sa relève. Au Kenya voisin, la Commission nationale kenyane des droits de l'homme a saisi la justice hier pour contester la fermeture annoncée par le gouvernement du camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde. L'organisme n'est pas d'accord non plus avec le renvoi des réfugiés somaliens dans leur pays. Jacques Aristide.
Dadaab, situé près de la frontière avec la Somalie, accueille 350 000 personnes, pour la plupart des Somaliens, qui fuient leur pays déchiré depuis plus de 20 ans par la guerre civile. Pour la Commission des droits de l'homme du Kenya, la fermeture de ce camp va mettre en danger les réfugiés et demandeurs d'asile s'ils sont renvoyés de force. Elle réclame que la DRA, c'est l'organisme gouvernemental en charge des réfugiés, qui a été dissous par le gouvernement, reprenne ses activités. Quant au gouvernement kényan, il explique cette fermeture programmée par des intérêts de sécurité nationale. Les autorités avancent sans en fournir la preuve toutefois que c'est à Dadaab qu'avaient été planifiées les attaques très meurtrières des islamistes somaliens Shebab contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013 et contre l'université de Garissa en 2015. Des voix du monde humanitaire ou universitaire se sont également élevées contre le projet du gouvernement et ont mis en doute sa faisabilité tant logistique que juridique.
Au Gabon, on connaît maintenant les dates de la prochaine élection présidentielle. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Jean Rovis Dabani.
Les autorités gabonaises ont fixé lundi les dates de dépôt des candidatures et de la campagne électorale. Selon un communiqué de la Commission nationale électorale autonome et permanente, CENAP, lu à la télévision nationale. La présidentielle gabonaise aura lieu le 27 août prochain. La campagne, qui durera 2 semaines, s'ouvre le 13 août pour s'achever le 26 août à minuit, précise le document. En tout, les acteurs impliqués dans l'organisation du scrutin disposent de moins de 90 jours pour tenir les délais. La période de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle est fixée au 12 juillet. Plusieurs ont déjà annoncé leur candidature ou investi par leur formation politique. Ali Bongo, qui a succédé à son père en 2009 lors d'un scrutin contesté, a été investi par le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Il y fera face à ses anciens camarades du gouvernement, dont Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, et Guizou Bandama, qui a démissionné du poste de président de l'Assemblée nationale, fonction qu'il a occupée pendant près de 20 ans. La veille, un autre opposant à M. Bongo, Casimir Oyemba, cadre du parti créé par André Mbaobam, a été investi par cette formation politique, aujourd'hui divisée. Plusieurs autres candidats ont aussi annoncé qu'ils s'est présentés en indépendant. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Crise migratoire, la Commission européenne doit dévoiler aujourd'hui un nouveau plan face à l'afflux de migrants en Méditerranée, notamment depuis l'Afrique, d'où viennent la plupart des hommes et des femmes qui ont entrepris la périlleuse traversée jusqu'aux côtes de l'Union européenne ces dernières semaines. Le projet sera présenté par le vice-président de la Commission, Frans Timmermans, et par la chef de la diplomatie américaine, Federica Mogherini, devant les eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg. Et pour terminer, la course pour la Maison Blanche ici aux États-Unis, la démocrate Hillary Clinton a passé finalement la barre du nombre de délégués qui lui assurent de devenir la première femme à briguer la Maison Blanche pour un grand parti américain. Selon l'agence de presse Associated Press, Mme Clinton a maintenant la majorité absolue des 2383 délégués nécessaires pour obtenir l'investiture du Parti démocrate. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.